Je vais prier. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ta présence. J'aimerais te remercier parce que, comme Fabrice nous l'a rappelé, tes bontés se renouvellent jour après jour et tu as encore quelque chose pour nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette fidélité. J'aimerais te prier pour tous ceux de notre communauté qui se réunissent ailleurs ce matin. J'aimerais te prier que ta parole nous met en mouvement pour te servir ici dans ton Église. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors le texte sur lequel j'aimerais prêcher ce matin se trouve dans l'épître à Tite. Tite, c'est à la fin du Nouveau Testament, et puis ça, c'est là où ça commence à être difficile à trouver, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans le Nouveau Testament, les livres bibliques raccourcissent, donc il faut faire attention quand on feuillette. Voilà, Tite. L'épître à Tite, au chapitre 2, et je vais commencer au verset 1. Donc c'est Paul qui s'adresse à Tite et qui écrit « Quant à toi, dis ce qui convient à l'enseignement saint. Que les vieillards soient sobres, dignes, pondérés, saints dans la foi, l'amour et la persévérance. Que les femmes âgées, de même, aient un comportement qui convienne à des personnes consacrées, qu'elles ne soient ni médisantes, ni esclaves des excès de vin, qu'elles enseignent le bien, afin d'apprendre aux jeunes femmes à aimer maris et enfants, à être pondérées, chastes, occupées aux travaux domestiques, bonnes, soumises à leur mari, pour qu'on ne calomnie pas la parole de Dieu. Encourage de même les jeunes gens à être pondérés à tous égards, en te montrant toi-même un modèle de belles œuvres avec un enseignement pur, digne, une parole saine, inattaquable, pour que l'adversaire soit confus et n'ait rien de mal à dire de nous. Je saute les versets 9 et 10, je passe au verset 11. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur, Jésus-Christ. Jusqu'ici notre lecture. Voici le passage que j'aimerais regarder avec vous ce matin. C'est un passage dans lequel on a des conseils comportementaux. Des conseils pour les chrétiens sur la façon dont ils doivent se conduire. Alors, Tite, c'est un responsable régional des églises en Crète. La Crète, c'est une petite île à côté de la Grèce. Et Paul l'a laissé là pour structurer les églises. Quand on lit l'épître à Tite, on voit l'insistance sur le choix des responsables, comment bien choisir des responsables. Il est là pour ça, faire en sorte que ces églises, qui commencent à être un peu établies, soient solides. Et à Tite, il donne ce conseil pour son ministère d'enseigner convenablement. On l'a lu, c'est le premier verset qu'on a lu, d'enseigner convenablement. Et un enseignement convenable, un enseignement sain, si je me souviens bien dans ma version, oui c'est ça, sain, donc S-A-I-N, et non pas sain, S-A-I-N-T, mais un enseignement sain doit prendre une dimension sur le comportement. Vous le savez, on l'a répété, un disciple de Jésus-Christ, c'est non pas seulement quelqu'un qui croit, mais c'est quelqu'un qui met en pratique son enseignement. Et donc là, eh bien, c'est pratique. L'enseignement doit avoir une dimension pratique. L'enseignement, ce ne sont pas des discussions sans fin, philosophico-théologiques, des questions sur quand est-ce que le Seigneur reviendra ou tel autre mystère de l'Écriture. L'enseignement saint, ce sont des comportements qui changent. Et on le voit à la fin du passage qu'on a lu, les versets 11 à 13, où Paul écrit que la grâce qui s'est manifestée nous apprend à vivre de façon saine, nous apprend à mettre nos comportements à l'heure de ce que veut Dieu. Et Paul insiste sur le comportement des chrétiens. Au premier siècle, le christianisme, c'est nouveau. C'est nouveau et c'est un ovni dans le monde romain. Qui sont ces gens qui font pas comme tout le monde, qui prennent leur distance avec le culte de l'empereur, avec les cultes de l'époque, qui prennent leur distance dans leur comportement? Donc du coup, on les regarde, on les observe. Et c'est sur le comportement qu'on juge les gens. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, on dit « qui veut tuer son chien dit qu'il a la rage ». Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne nous plaît pas, on va regarder, observer, pour voir si on ne peut pas trouver quelque chose qui ne nous plaît pas et l'accuser dessus. Et là, les chrétiens, eh ben, ils sont sous l'œil du microscope. Peut-être c'est notre cas aujourd'hui encore. Je vois sur Internet, ceux qui veulent critiquer les chrétiens, c'est toujours « oui, et lui, il dit ça, mais il a fait ça, et il fait ça ». Et c'est toujours sur des choses de comportement, bien plus souvent que sur des choses de doctrine, qu'on est repris. Et là, Paul demande à ce que le comportement soit bon pour que l'Église soit inattaquable. Pour ne pas donner d'argument à l'adversaire. Alors, vous avez remarqué pendant la lecture, j'ai sauté les versets 9 et 10, où on parle des conseils aux esclaves. Comme l'a dit Fabrice, je souhaite parler d'une Église multigénérationnelle et de la place de la vieillesse. C'est pour ça que je me suis concentré sur les recommandations aux différentes générations. Et plutôt que de regarder les conseils, mot par mot, tous ces adjectifs qu'il faut mettre en œuvre dans nos vies, j'aimerais plutôt prendre une vue d'ensemble sur ce passage et dégager trois grands principes. Trois grands principes que nous sommes appelés à vivre en Église. Le premier principe, c'est qu'il y a différents âges dans la vie. Alors, ça semble être une évidence. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas un peu tabou de parler de la vieillesse? Je ne sais pas comment vous avez réagi lorsque j'ai lu de s'adresser aux vieillards. Ce n'est pas un terme qu'on emploie. Je ne sais pas qui parmi vous se reconnaît comme un vieillard. Quand on parle des différentes catégories, et on le fait dans l'Église, on parle des enfants, on parle des jeunes, on parle des jeunes adultes, des jeunes professionnels, des jeunes parents, et après des jeunes retraités. Il y a toujours une petite gêne de parler de vieillesse, d'utiliser le mot vieux. Et pourtant, on vieillit. C'est un fait. On vieillit et on se dégrade, la fatigue est plus grande, l'énergie diminue, les problèmes physiques deviennent plus nombreux, mais c'est certainement la conséquence du péché, de ce qu'on va vers la mort, de ce qu'on est sujet à la maladie. Mais je crois aussi que Dieu l'a voulu. J'aime beaucoup le psaume 139. Et le verset 14 du psaume 139 dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » Ce psaume, c'est une invitation à nous voir comme Dieu nous voit, à nous aimer comme il nous aime, sans illusion, mais sans nous diminuer non plus. À nous aimer comme il nous aime aujourd'hui, pas hier, pas demain. Il nous aime aujourd'hui, comme nous le sommes, avec les forces que nous avons, avec la santé que nous avons. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, je l'ai découverte il y a peu de temps et elle est toujours dans ma tête. Une expression qui dit « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». La jeunesse est souvent caractérisée par l'impétuosité, par une envie d'action, de se mettre en marche. C'est l'occasion de faire des erreurs et d'apprendre de ces erreurs. On n'est pas toujours réfléchi quand on est jeune. La vieillesse, au contraire, a eu le temps d'apprendre de ses erreurs, de se former une sagesse, mais elle n'a plus toujours les forces pour la mener à bien. Dieu a voulu tous les âges. Et c'est un défi pour celui qui met sa foi en Dieu de s'en réjouir également. Se réjouir de tous ces âges, de se réjouir de cette évolution, de se réjouir du point où j'en suis aujourd'hui. C'est un défi pour le croyant, c'est un défi pour l'Église aussi, d'accueillir la vieillesse comme une belle étape. Notre société met en avant l'action, la jeunesse. Ça n'a pas été toujours le cas dans toutes les sociétés, mais c'est le cas chez nous. Quelle place donnons-nous à la vieillesse de notre Église? C'est pas facile de vieillir. Le docteur Paul Tournier écrit dans un de ses livres « Il faut accepter de vieillir. Accepter la retraite et beaucoup de renoncements. Accepter avec sérénité la perspective de la mort. Demeurer actif autant que possible, social et accueillant, en dépit d'une certaine solitude inévitable. Bien profiter du loisir, s'intéresser à des domaines nouveaux, aux jeunes, au mouvement des idées, se recueillir, méditer, acquérir la sagesse, être reconnaissant. Quel programme ? C'est pas facile de vieillir. En préparant cette prédication, je repensais à l'énigme du sphinx, l'énigme que le sphinx a donnée à Œdipe. Le sphinx était un monstre qui terrorisait une région et le jeune homme Œdipe passe par là et le sphinx propose à tout le monde une énigme, à ceux qui trouvaient l'énigme. Eh bien, si quelqu'un trouvait l'énigme, il partait, quittait la région, mais s'il ne trouvait pas l'énigme, il le tuait. Et jusqu'à présent, personne n'avait trouvé l'énigme. Vous avez dû entendre cette énigme. La voici. Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir? Œdipe a trouvé la solution. Il s'agissait de l'homme. De fait, lorsqu'il est enfant, il marche à quatre pattes, car il se déplace à quatre pattes. Adulte, il marche sur deux jambes, et quand il est vieux, il marche, il a trois jambes lorsqu'il s'appuie sur son bâton. Trois âges dans la vie, deux grands tournants dans la vie. Et le psychiatre Jung, compagnon de Freud, insiste vraiment sur ces deux passages. Il y a le premier passage qui est le passage de l'enfance à l'âge adulte et il y a un deuxième passage qui a la même envergure de l'âge adulte à la vieillesse. Le premier passage, c'est une spécialisation en vue du travail. Alors qu'enfant, on touchait à tout, on jouait, on découvrait. Quand on passe à l'âge adulte, on se spécialise pour être efficace dans son travail. Et le deuxième passage, eh bien, c'est un élargissement. Alors qu'on n'a plus le même besoin de productivité, il y a une occasion d'élargir son horizon et de saisir plus largement la vie, le sens des choses, de saisir la vie plus profondément. Pour Jung, c'est un changement similaire à l'adolescence et il est nécessaire de la préparer. Paul Tournier, que j'ai cité plus tôt, dit que pour réussir sa vieillesse, il faut la commencer plus tôt et non pas la retarder le plus possible. C'est au milieu de sa vie qu'il importe de réfléchir, d'organiser son existence en vue d'un avenir encore lointain, au lieu de se laisser absorber entièrement par le tourbillon professionnel et social. C'est alors qu'il importe de faire peu à peu plus de place à des activités moins extérieures, moins techniques et plus culturelles qui survivront à la retraite. L'homme, une créature aux multiples âges qu'il nous faut accueillir, auquel il faut nous préparer. Deuxième chose que je vois dans le texte que nous avons lu, c'est que il y a un appel commun. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de tous ces adjectifs qui sont pour les vieillards, les femmes âgées, les jeunes femmes et les jeunes gens. On pourrait prendre mot par mot, regarder le grec, qu'est-ce qui est répété, etc. Mais c'est technique, j'ai peur qu'on se perde. En lisant et en relisant ce texte, j'ai cette impression qui se dégage que tous ces adjectifs, toutes ces recommandations, c'est la même chose. À tous, on recommande la même chose, d'être sain, d'être pondéré, d'être sobre. Alors les adjectifs changent selon les traductions. Sain, c'est être en bonne santé, non seulement physique, mais aussi dans sa vie, sans aucune erreur, en particulier dans l'enseignement. Je l'ai dit, les églises de Crète, il faut les tenir, les organiser avec des responsables qui racontent pas n'importe quoi. Ça me fait penser à cette image de l'arbre. Pour qu'il donne de beaux fruits, l'arbre doit être en bonne santé. Et ce conseil d'être sain, il est applicable à tous. Sain, pondéré. Pondéré, c'est-à-dire modéré, capable de peser les choses, de peser le pour, le contre, les avantages, les inconvénients, de prendre tout ça en compte et d'y accorder son action. Sobre également, qui est une autre facette de la modération. Éviter les excès de vin ou d'autres. On retrouve d'autres adjectifs dans ce passage, mais j'ai l'impression que l'essentiel est là. Et cette impression est confirmée par le verset 12, où, pour résumer tout, Paul dit que la grâce nous invite à vivre une vie pondérée, juste et pieuse. On a l'essentiel. À tous, la même chose, une vie pondérée, juste et pieuse. À tous, la même chose, disais-je, mais de façon différente. Et Tite est invité à s'adresser spécifiquement à chacun, aux vieillards, aux femmes âgées, aux jeunes femmes, par l'intermédiaire des femmes âgées, et aux jeunes gens. Ce programme de vie, pondération, justice, piété, chacun a besoin de l'entendre face à ses problématiques propres, face aux spécificités qu'il vit. Alors, peut-être vous avez été gêné à la lecture, peut-être que vous avez frémi en entendant certaines des demandes, en particulier celle à destination des jeunes femmes à qui on demande de rester à la maison, s'occuper du foyer, être soumise à leur mari. Alors, ce n'est pas mon propos, mais je vais quand même ouvrir la parenthèse pour ne pas vous laisser avec cette impression si vous avez une gêne par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la soumission, ça pourrait faire l'objet d'une autre prédication, mais j'aimerais juste rappeler que dans le Nouveau Testament, la soumission est mutuelle. On peut lire Éphésiens 5 qui vraiment détaille le sujet. La soumission est mutuelle et dans le couple, la soumission est basée sur une relation d'amour. Et quand on s'aime, c'est toujours plus facile de se soumettre mutuellement et d'être prêt à des sacrifices pour l'autre. Quant à l'exhortation de s'occuper du foyer, on peut se poser la question, la Bible recommande-t-elle à ce que la femme reste à la maison ? Je ne pense pas que ce soit ce qu'il faille déduire de ce texte. Dans la société où Paul écrit, les femmes restaient au foyer, elles restaient à la maison. Et ce qu'il demande là, c'est que là où elles sont, elles se consacrent à leurs tâches. Puisqu'elles sont là, qu'elles s'y consacrent et qu'elles s'y consacrent bien. Je crois que dans la pensée de Paul, les chrétiens ne sont pas là pour faire la révolution. Et là, on parle d'une révolution d'une autre époque, puisqu'il a fallu attendre une petite vingtaine de siècles pour qu'elle se fasse. Dans le temps que nous avons, en attendant le retour de Jésus, vivons de manière pondérée, juste et pieuse. C'est ça notre priorité. L'attente et la vie qu'il demande. Et c'est la même chose pour le passage sur les esclaves que là j'ai cité. Vivre dans notre condition, de la façon dont il le demande. Je ferme la parenthèse. À chacun donc, Tite est encouragé à dire la même chose, mais de façon personnelle dans son contexte. Parce qu'on fait face toujours même chose. Si les jeunes doivent apprendre la pondération dans l'action qui est la leur, les personnes âgées doivent persévérer pour la conserver lorsque l'action ralentit. Quand ils seront moins occupés, ce sont les mêmes tentations qui reviendront. Et ça nous enseigne, qu'il faut sans cesse se réinterroger, examiner ce que l'enseignement biblique nous dit, ce qu'il a à me dire dans la situation où je suis. Ça nous enseigne aussi qu'il faut être prêt à nous laisser interpeller par d'autres qui ont un regard extérieur. Là, au retour de l'été, plusieurs dans l'église ou ailleurs ont dit « Oh là là, ton fils, qu'est-ce qu'il a grandi ? Oh ta fille, qu'est-ce qu'elle a grandi ?» Et ma réponse a toujours été la même. « J'ai rien vu. Moi, je les vois tous les jours, je n'ai pas remarqué. » Un regard extérieur nous fait remarquer des choses qu'on n'a pas forcément remarquées. Et c'est ce qui est demandé à Tite, d'avoir ce regard extérieur. Lui, également les enseignants de l'Église, anciens et pasteurs, prédicateurs, mais pas seulement. Et j'arrive à mon troisième point, la troisième chose que je retiens de ce texte, c'est que nous sommes appelés à vivre tous ensemble. Nous ne sommes pas appelés à vivre par groupe d'âge, chacun dans son coin, mais tous ensemble, dans l'Église, différents âges, avec leurs besoins spécifiques, doivent entendre une parole adressée à leur contexte. Mais ils vivent ensemble cette même parole, dans le même objectif d'attente de la manifestation de la gloire du Christ. Et dans ce contexte, ils doivent être des exemples les uns pour les autres. Tite en particulier, Tite le premier, Paul lui dit « Sois un exemple, exemplaire. Tu prêches, et non seulement tu prêches, mais en plus tu choisis les responsables de l'Église, sois exemplaire. Mais il n'est pas le seul, puisqu'il est spécifiquement demandé aux femmes âgées d'enseigner le bien, d'enseigner ce qui est bien aux plus jeunes. L'expérience des autres est bonne à entendre. Il ne s'agit pas de chercher à reproduire ce qu'ont vécu les anciens, leur demander ce que je dois faire, de prendre les décisions à la place. Notre société change de plus en plus vite, notre contexte aussi. Et chacun d'entre nous est la meilleure personne pour prendre les décisions qui me concernent et les décisions que j'aurai à assumer. Mais écoutez comment d'autres ont vécu. Ça peut être très inspirant. Quand ils ont eu à prendre des décisions qui engageaient leur vie, quand ils ont eu à faire face à des difficultés économiques, quand leurs enfants ont voulu plus de liberté, quand leurs parents ont été malades, quand ils ont connu des situations injustes au travail ou même à l'église, comment est-ce qu'ils ont vécu ça? Monique de Adjelagé écrit « La vieillesse donne un autre rythme, une sagesse de la vie. Être simplement là, à la même place, chaque jour, c'est peut-être une part de ce qui est important. » Ces personnes qui ont vécu, elles ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et plus que tout, ce que nous avons à entendre, c'est écouter comment ils ont vu Dieu dans tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est ce que Dieu attend d'eux, spécifiquement. Il y a un psaume dans la Bible, le psaume 71, on l'a lu ce matin à la réunion de prière, qui parle de la vieillesse. Et je vous lis le verset 18. Où le psalmiste dit « Et maintenant que je suis vieux, que j'ai des cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, et je pourrai annoncer dès aujourd'hui ta puissance aux hommes de mon temps et ta vaillance aux générations à venir. » C'est une chose que Dieu attend des anciens, des vieillards, qu'ils annoncent ce qu'ils ont vécu, qu'ils annoncent la fidélité de Dieu, son amour et sa bonté. Comme nous l'avons chanté ce matin. Il n'y a pas que dans les chants qu'on chante qu'on en entend parler. Il y a aussi dans le témoignage de nos frères et de nos sœurs. Alors, je ne saurais trop vous conseiller de passer du temps avec les plus anciens. Dans les groupes de maison que vous fréquentez, en passant du temps avec eux après le culte, ou pourquoi pas en un à un. Demandez à une personne plus âgée si elle accepte de vous voir régulièrement pour parler, pour échanger et pour prier ensemble. L'Église doit offrir un accueil généreux. Sans parler de faire une place à ceux qui deviennent dépendants, elle doit avoir de l'égard à ceux qui vieillissent, qui ne peuvent plus courir partout, qui ralentissent, mais qu'il est bon d'écouter. Elle doit leur donner une valeur où leur témoignage, leur expérience est mise en avant. Et je crois qu'elle doit aussi leur offrir la vision que l'Église continue sur la bonne voie. Une vie pondérée, juste et pieuse, inattaquable par l'adversaire, et ce, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Que ce qui a été commencé il y a bien longtemps, ça continue. L'attente du Seigneur dans la fidélité. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Dans l'Église, jeunesse et vieillesse sont réunies, réunies dans un même corps, chacun apportant ce pourquoi il est fort, pour ensemble aller plus loin sous la direction qu'est la tête, Jésus-Christ. Voilà ce que je retiens de ce texte. Trois directions, au-delà des conseils spécifiques que chacun pourra relire. Et ça peut être quelque chose que vous faites pendant cette semaine, de relire ces adjectifs, de les méditer, de voir où vous en êtes. Mais au-delà des conseils, je crois que ce passage nous invite à vivre une Église fortement multigénérationnelle, où nous avons conscience qu'il y a différents âges, différentes capacités, où nous savons rechercher l'enseignement qui nous concerne dans notre spécificité, l'enseignement adapté à notre situation, et surtout où nous vivons ensemble, nous enrichissant les uns les autres, dans le corps du Christ, dans toute sa richesse, où nous vivons la multiplicité de dons, la multiplicité d'origines et la multiplicité d'âges. Je crois qu'une Église qui vit ainsi est prophétique dans le sens où elle parle de notre Seigneur, de ce qu'il veut, de son projet pour l'humanité, et qu'elle lui rend gloire. C'est donc une direction que je nous invite à suivre. Je vous invite à la prière. Seigneur, il n'est pas forcément agréable que de considérer la vieillesse, de considérer notre propre vieillesse. Mais Seigneur, tu nous rappelles ce matin que dans ta main, tout ira bien. Tu nous rappelles que tu nous garderas. Alors aide-nous à garder les yeux fixés sur le but de cette vie sainte que tu nous demandes en attendant ton retour. Et aide-nous à vivre ensemble là où tu nous as placés. Comme il est écrit que jeunes et vieux se réjouissent ensemble devant toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.